France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Tous les vols sont suspendus à Tripoli, où le seul aéroport fonctionnel a été touché hier par une frappe aérienne non revendiquée, mais attribuée par l'ONU au général Haftar. L'ONU et son secrétaire général Antonio Guterres qui appellent à l'arrêt immédiat des combats en Libye. Il n'est pour le moment pas entendu. Les combats se poursuivent dans la banlieue sud de Tripoli, dans une offensive du maréchal Haftar qui dure depuis 4 jours maintenant et qui a déjà fait des dizaines de morts. Les États-Unis interdisent à 16 ressortissants saoudiens d'entrer sur le territoire américain. Selon Washington, ils auraient joué un rôle dans le meurtre de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien tué en octobre dernier dans le consulat du Royaume à Istanbul. Les États-Unis encore qui placent l'armée idéologique du régime iranien, les gardiens de la révolution, sur leur liste noire des organisations terroristes étrangères. On peut y voir aussi un cadeau diplomatique de Donald Trump à son ami Benjamin Netanyahou à quelques heures des élections législatives en Israël, élections qui s'annoncent d'ailleurs serrées entre le Premier ministre sortant Netanyahou et le parti centriste représenté par un ancien chef d'état-major Benny Gantz. Toutes les options sont sur la table au Royaume-Uni, même l'organisation d'élections européennes. Le gouvernement annonce avoir fixé au 23 mai d'éventuelles élections, car pour le moment aucun accord n'est trouvé. Les députés refusent une sortie dure ce vendredi, mais ils ne veulent pas non plus de l'accord négocié par Theresa May. La première ministre britannique se rend aujourd'hui à Berlin et à Paris. Et puis, qu'en est-il du référendum d'initiative citoyenne, le RIC, et du retour de l'ISF dans la synthèse du grand débat national? Ils sont absents. Ces revendications des Gilets jaunes ne figurent pas dans la restitution des travaux présentés hier par le gouvernement. Le premier ministre Édouard Philippe retient surtout, selon ses termes, l'exaspération fiscale des Français. Il veut y répondre par une baisse des impôts et donnera aujourd'hui devant les députés le calendrier des réponses à venir.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum L'année vue par les savoirs. Et si tout se jouait le 26 mai, Europe, le moment de vérité. À moins d'un mois d'élections déterminantes, France Culture sonde les enjeux qui traversent le continent au cours de 4 émissions et d'un dialogue de clôture en public avec le philosophe Patrick Manillier, l'historienne Bénédicte Savoie, l'écrivain Laurent Godet et le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. Venez nombreux, samedi 13 avril, dès 10h, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Un événement en partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, le réveil culturel, c'est très tôt à la radio ou quand vous voulez, en vous abonnant au podcast de ce rendez-vous quotidien de l'actualité culturelle, podcast ou écoute en ligne disponible entre autres sur franceculture.fr et tous les mardis, une recommandation pour une expo. Aujourd'hui on parlait d'Elena Rubinstein, l'aventure de la beauté, une exposition qui a lieu en ce moment au musée d'art et d'histoire du judaïsme et ce jusqu'au 25 août, en hommage donc à la reine des cosmétiques. La commissaire de l'exposition, Michel Fitoussi, est mon invité ce matin.
Le réveil culturel, mardi, expo.
L'aventure de la beauté, Elena Rubinstein, donc c'est l'intitulé de cette exposition qui retrace la vie d'une pionnière de l'industrie des cosmétiques. Bonjour Michel Fitoussi.
Bonjour.
Alors avant d'être la commissaire de cette exposition qu'on peut voir au musée d'art et d'histoire du judaïsme, vous avez écrit il y a 10 ans une biographie d'Elena Rubinstein et je me souviens d'ailleurs vous avoir reçu à cette occasion. Alors qu'est-ce qui vous a intéressé dans la vie et la carrière d'Elena Rubinstein? Est-ce la femme qui inventa la beauté, pour reprendre le titre de votre livre édité chez Grasset, ou la self-made woman née dans une famille désargentée juive de Cracovie et qui va traverser le XXe siècle et finir par bâtir un empire? Ou est-ce l'experte du marketing, la femme de goût qui fréquenta et travailla avec les scientifiques et les artistes, l'entrepreneuse acharnée qui va devenir l'impératrice de la cosmétique? Qu'est-ce qui vous a intéressé?
Tout. Tout parce que c'est une femme géniale, vraiment. C'est une visionnaire, c'est une femme d'avant-garde. Quand on imagine qu'elle est née pauvre en 1872, à Casimirs, le quartier juif de Cracovie, dans une famille, comme vous l'avez dit, désargentée, assez pieuse, assez orthodoxe, et qu'elle s'affranchit de tout ça, qu'elle s'émancipe à la fois de la religion et à la fois de son genre, puisqu'elle refuse de se marier, et elle meurt 93 ans plus tard à New York. Elle est milliardaire, elle a tout fait toute seule, elle a bâti un empire, elle a contribué à l'industrialisation de la beauté, et à sa culture aussi, elle a été une grande collectionneuse, une grande mécène. En s'émancipant, elle a voulu émanciper aussi les femmes. Ça a été compliqué avec la beauté, hein, parce que...
Par le maquillage, vous voulez dire ?
Alors, par le maquillage, oui, vous ne croyez pas si bien dire, parce que quand elle est arrivée à Londres en 1907-1908, les femmes ne se maquillaient pas. Et pareil aux États-Unis, le maquillage était réservé aux prostituées et aux actrices. Donc c'était un acte de rébellion que de se maquiller. Et d'ailleurs, en 1912, les suffragettes américaines qui défilent sur la 5e avenue pour réclamer le droit de vote, elles sont toutes habillées en blanc et elles arborent du rouge à lèvres en signe de rébellion. Donc oui, c'est intéressant parce que quand Elena Rubinstein, en 1903, dit « La beauté, c'est le pouvoir, beauty is power », et qu'elle l'écrit dans les premières publicités de l'époque, dans les quotidiens australiens...
C'est pas seulement un manager, vous voulez dire, mais c'est une femme qui a une cause à défendre ?
Alors, elle a sa propre cause à défendre, et c'est pas rien, parce que elle fait quand même, elle parcourt le monde quand même, hein. On l'expédie en Australie en 1896 parce qu'elle veut pas se marier, parce qu'elle est rebelle et parce que normalement, une fille comme elle, ça sort de l'école, ça s'occupe de ses sœurs et frères, elle a 7 sœurs, donc elle s'en occupe, elle va aider son père à l'épicerie familiale et puis c'est tout, puis elle attend le mariage. Bah elle, pas du tout, elle se rebelle, elle sait pas encore ce qu'elle veut faire, mais elle sait exactement ce qu'elle veut pas faire, et elle veut pas être cette jeune juive promise au mariage et qui va faire comme sa mère plein de gosses et puis s'occuper du foyer. Bon, on sait pas quoi en faire, on l'expédie. Et quand elle arrive en Australie, elle a traversé les mers, elle a 24 ans, elle mesure 1m47, elle a ce qu'on appelle la rouspa en yiddish, du toupet, du culot, elle est intelligente, elle est volontaire, elle est courageuse, et elle se bat tant et si bien qu'elle ouvre son salon de beauté en 1920. Et quand elle arrive en Australie, surtout, elle fait deux choses qui, moi, me fascinent. Elle change de prénom. Elle s'appelait Chaya, elle devient Elena. Chaya, c'est trop juif, elle en veut pas, ce judaïsme. Elle le met de côté. Et d'ailleurs, toute sa vie, elle va s'inventer des histoires, des origines. Elle est comtesse, elle va devenir princesse pour de vrai, mais en attendant... Elle invente. Et puis,
faut dire que le XXe siècle lui donne de bonnes raisons, justement, pour cacher sa judéité.
D'excellente, mais elle la cachera pas. Elle s'éloigne du dogme, elle s'éloigne du culte, elle s'éloigne de la religion, mais elle reste quand même assez juive. Et la petite juive de Cracovie, elle l'est toujours au fond. La deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle biffe sur ses papiers d'identité 9 ans. Elle est née en 1872. Elle sera née en 1880. Et vous m'avouerez que c'est quand même beaucoup plus efficace qu'une crème de beauté pour rajeunir.
Alors, New York et Vienne ont déjà organisé une expo autour d'Elena Rubinstein, c'est autour de Paris, toujours au musée de l'histoire et de l'art juif, comme à New York, comme à Vienne. Est-ce que Elena Rubinstein est vraiment liée à la culture juive ?
Oui et non. Oui, parce que elle est née dans un faubourg juif, dans un quartier juif de Cracovie. Ses parents étaient des juifs pieux, religieux, et que toute sa vie, elle va défendre en tout cas ce qu'elle est, son identité. Et notamment, elle va être en butte à l'antisémitisme, que ce soit à Paris, à Londres ou à New York. Et elle a des parades pour s'en sortir, notamment l'argent. Et elle change pas son nom, elle sera toujours Rubinstein. Et puis non, parce qu'au fond, c'est une femme universelle. Un rôle modèle. D'ailleurs, elle sort des musées juifs puisque en octobre, le musée du Quai Branly organise une exposition sur sa collection d'art premier. Elle a été une des grandes, grandes collectionneuses d'art premier. Elle possédait plus de 600 pièces et c'est ce que le musée du Quai Branly va s'attacher à recréer et à montrer.
Et Michel Fitoussi, quelques pièces sont présentes dans cette exposition en ce moment, hommage.
Oui, alors le musée du Quai Branly et sa commissaire Hélène Joubert ont eu la gentillesse de nous prêter deux pièces et de nous indiquer où on pouvait en trouver. Parce que quand on a commencé à chercher ces pièces, évidemment elles avaient déjà été préemptées par le musée du Quai Branly, mais ce que nous voulions avec la commissaire adjointe Dorota Sniezek, nous voulions montrer un échantillon à chaque fois de ces collections et ces pièces d'art africain qui sont très belles, voisines avec sa collection de sculptures, un échantillon de sa collection de sculptures d'Elin Adelman, qui est un grand sculpteur, mais plutôt classique, qui sculptait dans le marbre des profils et des statues très grecques classiques. Et ça montre à quel point elle aimait les visages et elle avait la passion du visage humain et du visage féminin en particulier.
Alors, comment se présente cette exposition? Comment, à partir d'éléments biographiques, concevoir une exposition qui raconte l'histoire de cette femme, Helena Rubinstein?
Alors, je vous avoue que commissaire d'exposition, c'est pas mon métier. J'en ai fait beaucoup, mais c'était la première fois et j'étais très heureuse que le MAJ me le propose. Et on s'est appuyé sur l'exposition de Vienne dans le parcours, puisqu'on a imaginé, on a reproduit le parcours qu'avaient imaginé Daniel Spera et Iris Meder à Vienne, qui étaient sept villes, les sept villes phares d'Helena Rubinstein.
De Cracovie à New York.
De Cracovie à Tel Aviv, en passant.
Elle
va donner des... Voilà. Et elle meurt à New York. Mais Cracovie, Vienne, parce qu'elle passe par Vienne. Ensuite Melbourne, puis Londres, puis New York. Et effectivement, Paris et Tel Aviv, et Paris étant une de ses villes préférées, donc on s'est appesanti, enfin on a mis plus de choses dans Paris, parce que c'est vrai qu'elle a adoré Paris, qu'elle a rencontré des peintres, qu'elle a rencontré tous les artistes importants, c'était à Paris, et c'était aussi avec son mari, son premier mari, Édouard Titus, qu'elle a fait tout ça. Et puis on a agrémenté la proposition initiale du musée de Vienne, d'œuvres d'art, d'œuvres que nous ont prêtées des collectionneurs privés, des musées, qu'on est allé chercher à Tel Aviv ou à Washington pour les statues de Nadelman dont je vous parlais à l'instant. On a pris des tableaux, un Chagall par exemple qui est absolument magnifique parce qu'elle aimait beaucoup Chagall, elle l'a rencontré dans les années 20. Louis Marcoussi qui était un sculpteur et un graveur polonais, qui l'a beaucoup accompagné dans les ateliers de peintre où elle allait acheter, disait-elle, en gros. J'achète en gros, pas en détail. Elle exagérait parce qu'elle achetait vraiment très bien, et même quand elle se trompait, elle achetait encore très bien. Donc il y a tout ce parcours aussi artistique qui était très important à montrer, et puis le parcours de la mode, parce que les vêtements de Madame Rubinstein de Worth, la première robe du soir qu'elle achète en 1905 à Saint-Laurent, elle était la première sur le front row, le premier défilé de Saint-Laurent, elle avait 90 ans. C'est un peu l'histoire de la mode et en tout cas de la haute couture, puisqu'elle s'est habillée chez Poiret, Chanel, Doucet, Balenciaga, Schiaparelli. Enfin, elle s'est fait vraiment beaucoup photographier dans ses tenues magnifiques.
Alors, vous parlez justement, Michel Fitoussi, de Paris, de l'importance de Paris dans le parcours d'Helena Rubinstein, à Paris où elle va connaître Jean Cocteau, qui va la nommer l'impératrice de la beauté. Cette exposition devient intéressante parce que effectivement, quand on parle d'une femme qui va faire fortune et qui va bâtir un empire des cosmétiques, on se dit, mais c'est une histoire commerciale. Or, avec Helena Rubinstein, elle a tout inventé. Il s'agit d'une pionnière. C'est-à-dire travailler avec des scientifiques, travailler avec des artistes. On l'écoute ici dans une interview de 1960 où elle explique d'une manière mais la plus sérieuse possible, Helena Rubinstein, comment elle a mis en place ses premiers maquillages.
J'ai gagné beaucoup d'expérience en Australie pendant 3-4 ans. Je n'étais pas du tout contente. Je voulais étudier avec les différents docteurs scientifiques. À Berlin, à Vienne, et je sacrifiais encore 18 mois à l'étude, et après ça, Je commence à Londres. J'ai engagé une doctrice de Vienne et une autre d'une autre de Leipzig.
Voilà, c'était Elena Rubinstein.
Elle a une petite voix douce.
Ouais.
Hein. C'est une petite femme, petite par la taille, mais grande par tout ce qu'elle a fait, effectivement.
Mais quand on l'interviewe au début des années 60, on interviewe effectivement celle qui a participé à l'aventure de la beauté, pour reprendre le titre de l'exposition en ce moment consacrée à Elena Rubinstein au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Mais là, dans ses propos, il n'y a pas de glamour. Elle explique comment elle a dû travailler, réunir des compétences, tester.
C'était une bosseuse. C'était vraiment, il n'y a pas de secret. D'ailleurs, elle disait, j'aime le travail acharné parce qu'il éloigne les rides de l'âme et de l'esprit. Et c'est vrai, toute sa vie, elle a travaillé très dur. Elle a travaillé dur pour réussir. Elle a travaillé dur pour rester au sommet. Pour y arriver, bien sûr, pour rester au sommet. Et ça a été.
Pour se battre avec ses rivales parce qu'elle va en avoir.
Oui. Et elle est pas seule, hein. Et c'est vrai qu'elle est d'avant-garde parce qu'elle invente beaucoup de choses dans le domaine de la cosmétique et qu'elle comprend très vite beaucoup de choses.
Alors, qu'est-ce qu'elle invente, Michel Fitoussi?
Alors, elle comprend très vite que la peau se classifie en trois. Il y a trois types de peau, normale, sèche et grasse. Elle comprend qu'il faut hydrater la peau, elle comprend qu'il faut la protéger du soleil. Ça a l'air très simple et tout à fait naturel aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'on est au début du XXe siècle. Elle comprend surtout que la beauté va émanciper les femmes. C'est-à-dire que la beauté va leur permettre d'être elles-mêmes et de se réinventer. Comme elle-même s'est réinventée d'ailleurs, puisque elle n'était pas une très belle femme, mais chignon bas, très de rouge à lèvres, c'est sa signature et elle sera toujours la même chose. Elle comprend vraiment tout ça pour que les femmes puissent devenir plus belles, plus séduisantes et aller travailler surtout.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. Nightingale sang in Berkeley Square.
Était-elle du genre à aller danser en écoutant les orchestres de New York, de Glenn Miller, comme on vient d'entendre, Michel Fitoussi. On parle bien sûr d'Elena Rubinstein, l'aventure de la beauté. C'est l'exposition qui a lieu en ce moment et ce jusqu'au 25 août au musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Non, je crois qu'elle était surtout du genre à travailler. Elle bossait vraiment tout le temps, jour et nuit. Elle avait toujours de nouvelles idées. Et puis, quand elle ne travaillait pas, un de ses plaisir préféré, favori, c'était d'aller dans les galeries des peintres, dans les ateliers des peintres, dans les galeries de peinture, et d'acheter des tableaux, ou d'aller à Drouot, acheter de l'art premier. Elle a commencé sa collection d'art premier, qui est une des plus belles collections qui existent, qui était une des plus belles collections qui existent. Elle avait 600 pièces. Quand elle était à Londres, c'est le sculpteur Jacob Epstein, qui était un ami de son mari, qui l'envoyait à Drouot, parce qu'elle allait souvent à Paris, et puis elle a compris qu'elle pouvait acheter pour elle de l'art premier. C'est très précurseur, hein. Et puis, quand elle est arrivée à Paris, elle rencontrait Missia Cert, qui tenait salon et qui avait été peinte maintes et maintes fois par des peintres. D'ailleurs, on a un tableau de Vuillard qu'il a peinte 90 fois. Et Missia lui a expliqué que elle pouvait recevoir, qu'elle pouvait tenir un salon comme elle. Donc, elle a reçu des peintres. Elle est allée dans les ateliers avec Missia. Et puis, elle s'est fait peindre elle-même. C'est le conseil que Missia lui a donné. Et le premier tableau représentant Elena Rubinstein date de 1908. C'est Paul Helleux. Et puis, il y en a eu une vingtaine d'autres. Et Dufy, Sarah Lipska, Dali, Marie-Laure Ancin, Christian Bérard, Paul Tchalitchev l'ont peinte.
Elle en fréquentait d'autres, Picasso entre autres.
Oui, Picasso qu'elle aimait beaucoup, qu'elle a commencé à acheter en 1920. D'ailleurs, il y a une très belle tapisserie de Picasso dans l'exposition qui nous a été prêtée par Maya Picasso et qui a été réalisée par la maison Mirbeau, tenue par Marie Kitoli, qui était devenue une grande amie d'Elena Rubinstein et qui éditait des tapisseries d'après des dessins ou des peintures de peintres célèbres. Et Picasso, à qui elle a demandé de faire son portrait et qui a obstinément refusé. Il n'a fait que 30 croquis d'elle, mais jamais il ne l'a peinte. Et selon le biographe de Picasso, John Richardson, qui est mort récemment, c'est parce que Picasso avait peur d'elle et qu'il se disait que si jamais il terminait le tableau de Madame Rubinstein, qui était un peu effrayante quand même, hein, vers la fin de sa vie, hein, autoritaire et un peu tyrannique, et ben s'il terminait ce tableau, et ben il allait peut-être mourir. Alors donc, il s'est dit qu'il valait mieux pas et vraiment, elle l'a harcelé, hein, mais il n'a pas terminé le tableau.
Vous avez
pas
dit commencé. Bosseuse d'abord, vous terminez oui. Par tyrannique, Michel Fitoussi, alors... pour parler d'Elena Rubinstein, mais est-ce qu'on peut dire que entre-temps, elle a été plutôt une chef d'entreprise, ah plutôt oui. Rusée, ne reculant devant rien, c'est-à-dire y compris vis-à-vis de la concurrence, être assez combattante, pour ne pas dire autre chose.
Alors, d'abord, vous imaginez qu'elle a réussi toute seule. Hein. Elle a eu deux maris, le deuxième l'a faite princesse, le premier a été son mentor, mais c'est elle qui gagnait l'argent. Hein. Donc, et quand elle a coupé les vivres au premier, il avait plus d'argent. Donc, il a fallu quand même qu'elle se batte, certes dans un siècle où le marché de la beauté était en friche et où elle est arrivée au bon moment, mais quand même pour rester, comme vous l'avez dit, au sommet et pour évincer les autres, il fallait qu'elle se batte. Sa principale rivale était Elisabeth Arden. Elles se détestaient, elles étaient au même niveau. Elisabeth Arden, comme elle, avait très bien réussi aux États-Unis, elle réussissait très bien dans le monde entier. Elles ne se sont jamais rencontrées. Elena Rubinstein l'appelait avec dédain l'autre femme. Tous les coups bas étaient permis. Elena Rubinstein a engagé le mari d'Elisabeth Arden quand celle-ci a divorcé et que le mari n'a plus travaillé dans l'entreprise. Elisabeth Arden a engagé les directeurs commerciaux qui quittaient l'entreprise de Madame Rubinstein. Elle se copiait sur les publicités, sur les produits, y compris les salons de beauté, puisque quand Elisabeth Arden a ouvert un salon sur la 5e avenue avec une porte rouge, Elena Rubinstein a vu rouge aussi, et elle a ouvert son 4e salon de beauté à New York, qui était une pure merveille, peut-être le plus beau de tous, avec, comme dans chaque salon de beauté ouvert dans le monde, des œuvres d'art, des Brancusi, sa collection d'art premier, Sena Delman.
Alors, c'est vrai que ces salons de beauté étaient de toute beauté, on peut
absolument.
Le dire. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait du goût, mais ça ne l'empêchait pas de faire des mauvais coups. En 1935, elle va racheter d'une manière très secrète, on peut le dire, la licence du mascara qui va devenir après une de ses inventions, entre guillemets.
Elle la rachète à Vienne, chez une comtesse viennoise, et elle la lance en 1939 avec une idée géniale qui est un balai nautique, c'est le mascara waterproof. Et évidemment, à l'exposition universelle de New York, ça cartonne. Et elle va faire la même chose en 58. Elle rachète aussi une licence du mascara. Vous savez, avant, on crachait dans une petite boîte et puis avec une brosse, on se noircissait les cils. Bah là, le mascara devient automatique, c'est-à-dire que c'est un tube. Et elle achète la licence et c'est un tabac. Mais évidemment, c'est pas elle qui l'a inventé. Mais elle a le génie de s'approprier tout ce qui est nouveau, d'avant-garde, d'en faire son miel. C'est une éponge. Et c'est ça qui est formidable.
Et de réunir aussi bien les scientifiques que les artistes, oui. Que les experts du marketing. Parce qu'elle a été aussi une grande prêtresse du marketing pour les cosmétiques.
Vous imaginez que sa première publicité, elle date de 1903, que son égérie est une cantatrice australienne qui dit que Madame Rubinstein lui a sauvé la vie parce qu'elle a mis sa crème, que c'est paru dans tous les quotidiens australiens. c'est vraiment très très d'avant-garde. Et quand dans les années 50, elle engage David Ogilvy, Monsieur Madman, qui a pignon sur rue sur Madison Avenue et qui va lui faire des publicités absolument incroyables en engageant des grands photographes comme Erwin Blumenfeld, c'est aussi une façon de montrer qu'elle est toujours la reine du marketing et la reine des cosmétiques. Ça va ensemble, hein, c'est lié pour elle.
Et aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, la marque se défend pas mal. Il y a eu
Elle a été
rachetée par L'Oréal en 1988.
Donc c'est passé sous le giron français.
Et après avoir subi des déboires, puisqu'elle avait été vendue à Colgate Palmolive et qu'ils l'ont mise sur le mass market, ce qu'elle refusait absolument. Elle pensait que la beauté devait avoir un prix et qu'on devait payer cher ces produits de beauté. Les femmes devaient payer cher parce que c'était important que la beauté, que la crème qu'elles avaient, même si elles achetaient rien d'autre de luxueux, c'était au moins une crème de beauté. Et la marque marche plutôt pas mal et surtout ça marche très bien en Asie parce que les Chinoises particulièrement adorent les produits de beauté pour la peau et qu'elles adorent le luxe aussi et que cette marque rassemble tout ce qu'elle aime, y compris ce storytelling qu'Elena Rubinstein a inventé, puisqu'elle s'est beaucoup amusée à recréer sa légende sans cesse, à mentir sur sa vie et à vouloir qu'en bien ou en mal, on parle toujours d'elle.
Et la collection d'art d'Elena Rubinstein ?
Alors, elle a été dispersée à sa mort. Elle est morte en 1965. Ses héritiers, son fils survivant, l'autre était mort. Ses neveux et nièces sont tout dispersés. C'est la galerie Park Bennett à New York qui a tout vendu. Elle a donné ses tenues de haute couture et quelques-uns de ses vêtements, de ses bijoux et de son mobilier à ses héritiers, mais toute la collection a été dispersée, et y compris les 20 tableaux d'elle qui sont restés des années accrochés à la fondation Elena Rubinstein qu'elle avait créée en 1953 et qui a été dissoute récemment. Et là, les héritiers ont vendu.
Elena Rubinstein, l'aventure de la beauté, c'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 25 août. Merci Michel Fitoussi.
Merci infiniment.
Je rappelle que vous n'êtes pas seulement la commissaire de cette exposition, vous êtes aussi l'auteur de La femme qui inventa la beauté. Donc cette biographie d'Elena Rubinstein parue chez Grasset il y a 10 ans. Vous pouvez réécouter cette interview en passant par franceculture.fr. Émission préparée avec Maëlle Ray et Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard. Avec ce matin la technique, Marie le peintre. À demain.
Merci.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. À lire dans ce nouveau numéro, À quoi bon la littérature dans un monde d'images ? De Christine Angot à Naomi Wallace, plus de 50 écrivains répondent. Un dossier exceptionnel. Au sommaire également, une sélection de 30 romans essentiels pour comprendre notre temps. La crise sociale par l'historien Gérard Noiriel. Une masterclass avec Riyad Satouf et un grand entretien avec Alain Touraine. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie. Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Partons à la conquête du ciel cette semaine, série spéciale consacrée au marché de l'aéronautique, des premières machines volantes à l'A380, un marché encore dominé par Airbus et Boeing, malgré les défaillances techniques du constructeur américain et la montée en puissance de la concurrence chinoise. Les routes du ciel, empruntées chaque année par 4,5 milliards de passagers, mais aussi les aéroports, aiguisent plus que jamais les appétits. Embarquement prévu chaque jour à 14h sur France Culture.
Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le Royaume-Uni se fixe une date pour d'éventuelles élections européennes, preuve que le calendrier est toujours aussi flou. Sans accord cette semaine, le pays sortira de l'Union européenne vendredi. Theresa May entame une tournée européenne, nous irons à Londres dans un instant. Nous rejoindrons aussi notre correspondant en Israël, où débutent ce matin les élections législatives. Face au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, un ancien chef d'état-major, Benny Gantz, semble convaincre. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Et puis, quelle piste sont sur la table pour réduire les impôts en France. Le gouvernement se fixe cet objectif comme conclusion de son grand débat national. Après Berlin, la première ministre britannique sera reçue tout à l'heure en fin d'après-midi à Paris. À la veille d'un nouveau sommet européen, Theresa May vient plaider un nouveau report de la date de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. En attendant, le gouvernement britannique a tout de même fixé au 23 mai prochain la date d'éventuelles élections européennes. La menace d'un retrait sans accord est toujours présente, même si les députés ont refusé cette possibilité hier. Ils espèrent toujours un report du Brexit. De quoi rendre plus perplexes encore les Européens, Pierre Benazet.
En faveur de ce nouveau report, il y a d'un côté le désir des 27 de laisser la porte ouverte à des relations étroites avec le Royaume-Uni après le Brexit. Pour beaucoup, une sortie sans accord compromettrait cette perspective. Il y a aussi la volonté de ne pas paraître pousser les Britanniques vers la sortie, ce qui ferait courir le risque politique d'être tenu pour responsable d'un Brexit désastreux. Et il y a enfin la volonté de régler une bonne fois pour toutes les trois dossiers majeurs pour les Européens, la frontière irlandaise, le règlement financier et les droits des citoyens. Michel Barnier l'a encore répété hier. Il l'a dit devant le Premier ministre irlandais qui se dit prêt à accorder un report. Mais d'un autre côté, les Européens doutent sérieusement de la capacité de Theresa May d'obtenir un vote à la Chambre des communes d'ici juin, alors qu'elle n'y est pas arrivée depuis décembre, et les 27 aimeraient autant que faire se peut éviter qu'un Brexit inachevé vienne pourrir la campagne des élections européennes.
Pierre Benazet depuis Bruxelles pour France Culture. Il est la surprise des élections législatives israéliennes, mais sa victoire est encore loin d'être assurée. Benny Gantz pourrait aujourd'hui dépasser le parti de Benjamin Netanyahou, puis être dans l'incapacité de former une coalition gouvernementale. Ancien chef d'état-major, il dirige une liste d'union du centre et rassemble avant tout sur l'idée de faire tomber Benjamin Netanyahou, premier ministre au pouvoir depuis plus de 10 ans, Étienne Monin.
Même quand il est à l'aise dans les meetings, on peut dire que Benny Gantz ne crève pas l'écran. Il a la raideur des anciens généraux. Il fait aussi sa première campagne politique, appelée en première ligne pour incarner l'alternative, dit le politologue Avraham Diski.
L'autre nom qu'on donne à Gantz, c'est espoir. Donc vous avez quelqu'un qui présente bien, qui a un excellent parcours, et il vous donne l'espoir d'un changement pour mettre la droite dehors.
Benny Gantz a 60 ans, il est fils de déporté, il a commandé l'armée dans deux guerres contre le Hamas à Gaza en 2012 et 2014. Il est entouré de deux autres généraux. Son programme est proche de celui de son adversaire Benjamin Netanyahou sur la sécurité. Sur le reste, difficile d'y voir clair pour Meir Masri, maître de conférences en sciences politiques, ancien porte-parole du Parti travailliste.
Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quelles sont ses idées concernant la question palestinienne. Est-ce qu'il est pour un État palestinien ou contre ? Est-ce qu'il est de droite ou de gauche ? Il ne l'a jamais dit d'ailleurs. Ce n'est pas du tout un mouvement homogène, c'est un mouvement on ne peut plus hétéroclite.
Avant tout, Benny Gantz s'appuie sur les affaires qui menacent le Premier ministre sortant. Il se présente comme le défenseur de l'État de droit en Israël.
Benny Gantz face à Benjamin Netanyahou, c'est donc le duel dans ces législatives israéliennes. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une demi-heure maintenant. Les combats en Libye doivent cesser. Voici l'appel inaudible pour le moment du chef de l'ONU, Antonio Guterres, alors que le conflit entre les forces du gouvernement d'Union nationale et celle du maréchal Haftar a déjà fait des dizaines de morts. Khalifa Haftar mène une offensive sur Tripoli depuis jeudi. Hier, l'aéroport fonctionnel de la capitale a été touché par un raid aérien. Il n'a pas fait de victimes, mais tous les vols ont été suspendus. Le Kremlin appelait aussi hier toutes les parties à la retenue. Le célèbre metteur en scène russe Kirill Serebrennikov va pouvoir quitter son domicile à Moscou. Un tribunal moscovite a levé hier l'assignation à résidence. Serebrennikov ne pourra toutefois pas quitter Moscou. La justice russe le soupçonne de détournement de fonds publics, accusation qu'il a toujours rejetée. Claude Bruyot, vous êtes notre correspondant en Russie. Comment a réagi le metteur en scène à ce demi-succès judiciaire ?
Alors tout d'abord, en apprenant la nouvelle, Kirill Serebrennikov a tenu à déclarer qu'il allait continuer à se battre pour prouver son innocence. Car aujourd'hui, le fait qu'il retrouve une partie de sa liberté va lui permettre bien sûr de travailler dans de meilleures conditions d'un point de vue matériel et technique. Mais l'interdiction de quitter Moscou et surtout la surveillance qui va continuer à s'exercer sur ses travaux ne garantissent absolument pas qu'il sera totalement en phase avec le génie créateur que beaucoup lui reconnaissent en Russie et à l'étranger. l'étranger et notamment en France. Son procès, qui dure depuis plusieurs mois maintenant, a été dès le départ interprété par ses nombreux soutiens comme une affaire montée de toutes pièces. À l'époque de son interpellation, Kirill Serebrennikov mettait la dernière main à un spectacle pour le Bolchoï sur la vie de l'icône de la danse Rudolf Nureyev, dissident célèbre de la période soviétique à l'homosexualité affichée. Certaines scènes du spectacle de Serebrennikov avaient alors été jugées déplacées par les autorités et les milieux ultra-conservateurs, et quelques semaines plus tard, donc, Serebrennikov était accusé d'avoir détourné donc des aides de l'État.
Merci Claude. Claude Brouillot depuis Moscou pour France Culture. Alléger les déficits publics tout en réduisant les impôts, est-ce compatible en France? Les restitutions du grand débat national sur la fiscalité ont eu lieu hier en présence de la moitié du gouvernement et du Premier ministre Édouard Philippe. En tête des contributions spontanées, les contributeurs demandent selon l'exécutif plus de transparence sur l'utilisation de leurs impôts. Un impôt sur le revenu pour tous, ce qui existe en fait déjà via la TVA. Ils demandent également la baisse de cette même TVA. Le gouvernement a dit entendre l'exaspération fiscale des Français. Mais avec quelle piste, Delphine Simon ?
Les impôts doivent baisser et ils doivent baisser vite. C'est désormais acté à Bercy. C'est vrai que la croissance ralentit, mais elle reste à un niveau élevé. Le déficit public, lui, est inférieur aux prévisions. De quoi rassurer le ministre des Comptes publics, a priori favorable à une entrée plus progressive des classes moyennes dans l'impôt pour les salariés jusqu'à 3 fois le SMIC, ceux qui gagnent entre 1200 et 3600 euros. D'autres pistes existent. Par exemple, baisser les impôts de production pour les entreprises ou les droits de succession, supprimer la redevance radio-télé, mais aussi raboter les niches fiscales. La majorité propose une revue générale de leur efficacité. Une bonne idée pour le ministre des Comptes publics. Comment compenser le manque à gagner? Pas sûr que la nouvelle taxe GAFA, les économies dans l'audiovisuel ou la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires suffisent. Soit on travaillera plus, soit on fera plus d'économies. Tout est sur la table, selon Bercy. En attendant les derniers arbitrages, le président de la République est le seul à avoir la clé de la sortie du grand débat.
Et nous devrions connaître le calendrier de ces arbitrages aujourd'hui. Édouard Philippe, le Premier ministre, sera devant les députés de l'Assemblée. L'Assemblée nationale qui valide le projet de loi pour taxer les grosses entreprises numériques, les GAFAM notamment, comprenez Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Les députés l'ont approuvé par 55 voix contre 4 et 5 abstentions. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'est félicité que la France ouvre la voie, se disant certain que beaucoup d'autres pays suivront. 1600 postes en moins dans le monde, dont environ 700 en France. La Société Générale a présenté hier au syndicat un plan d'économie. La CGT évoque notamment des suppressions de postes au sein de la Banque de Financement et d'Investissement du groupe. La fonte des glaciers continentaux, elle s'accélère. Des chercheurs publient une étude en ce sens dans la revue Nature. Les Alpes, la Patagonie, l'Arctique russe, leur fonte fait en fait monter le niveau de la mer à un rythme de plus en plus élevé, Sandy Dauphin.
C'est comme si chaque année, 3 fois le volume de glace stocké dans les Alpes européennes fondait. Cette étude franco-suisse a été menée sur 19 000 glaciers continentaux à travers le monde. Au total, plus de 9 000 milliards de tonnes de glace ont disparu depuis 1961, dont un tiers pour la seule région de l'Alaska. Tous les sommets ne réagissent pas de la même manière au réchauffement climatique. Les plus touchés sont situés en Patagonie, dans les Andes du Sud. Ils perdent plus d'un mètre d'épaisseur par an. Les glaciers tropicaux, comme le Kilimandjaro au Kenya, sont également très vulnérables. Dans le classement, ils sont suivis par les montagnes du Caucase ou encore les Alpes. À l'inverse, certains géants résistent mieux, notamment en Asie. Les auteurs de l'étude ont calculé que la fonte des glaciers du monde a fait monter le niveau des océans de 2,7 cm depuis une cinquantaine d'années. Elle contribue donc à elle seule à plus de 25% de l'élévation du niveau des mers. Les autres causes sont la fonte des calottes glaciaires Groenland-Antarctique et la dilatation des océans sous l'effet du réchauffement.
Le temps de ce mardi sera marqué par des averses sur les frontières du Nord, ce matin d'abord, puis sur la Manche et jusqu'aux Pyrénées en passant par l'Atlantique, par l'Île-de-France et le centre notamment. Justement, seules les côtes atlantiques pourraient échapper à ces averses. Aujourd'hui, côté température, comptez 11 degrés ce matin à Lille, Bordeaux, 12 à Strasbourg, 13 à Paris et 16 à Marseille. Il est 6h40, vous écoutez France Culture, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Dans votre journal des idées, vous analysez ce matin la brutalisation du débat public, l'avènement d'une culture du clash, ouais. Le règne de la post-vérité. Tout cela ne serait pas aussi nouveau qu'on pourrait le penser, Jacques.
Oui, oui, s'il est vrai que le phénomène doit beaucoup, dans sa forme contemporaine, à l'essor des nouveaux médias numériques et à leur influence sur l'ensemble de la sphère communicationnelle, un coup d'œil rétrospectif révèle une remarquable et ancienne continuité. Dans un livre qui vient de paraître chez Payot sous le titre « Réflexe primitif », Peter Sloterdijk brosse une généalogie du rapport ambigu à la vérité et du caractère consubstantiel à la condition humaine telle qu'elle est définie depuis les origines de l'obstination dans l'erreur. Le philosophe relève que les visions du monde développées par les civilisations de haute époque ont conçu l'humain comme un être dont la nature veut qu'il soit victime de ses erreurs. De l'Inde antique ou des zoroastriens au mythe platonicien de la caverne, l'histoire serait le résultat d'un conflit entre la vérité et l'erreur incarné par des divinités antagonistes où l'humain serait condamné au choix du pire, le combat dans le camp du bien fournissant la matrice de ce qui portera ultérieurement des noms aussi sonores que la vraie religion, mission, combat pour le progrès ou djihad. C'est ainsi qu'on a pu justifier la terreur au nom du bien. Dans le christianisme, l'insistance endurcie que l'on porte sur le faux prend le nom de péché. Elle suggère l'idée d'un acte rebelle qui s'illustre dans le mensonge comme une insurrection de principe contre le devoir de dire la vérité. Et par un retournement dont l'histoire a le secret, le camp du bien et de la vérité a fini par se constituer en idéologie, trace fossile d'une vérité passée au service du mensonge, cible ultérieure de toutes les construction révolutionnaire. C'est alors que l'idéologie en échec laisse libre cours au cynisme, dernière figure en date de la conscience qui se trompe, que l'on trompe et qui trompe. Le cynisme, c'est une forme de désinhibition. Si l'hypocrisie était une révérence du vice à la vertu, le cynisme met quant à lui en œuvre le refus que le mensonge oppose à la convention consistant à se couvrir d'idéalisme. D'où le statut aujourd'hui ambivalent du politiquement correct, la guerre de tous contre tous et le succès des populismes. L'époque que Christian Salmon a décrite comme l'ère du clash dans un livre récent paru sous ce titre, après le déclin du spin doctor, le conseiller en communication qui avait pour tâche de produire un storytelling, récit conforme à l'idéologie du pouvoir, cette époque obéit désormais à la loi du feedback positif, propre aux réseaux sociaux. Le buzz ne fait aucune distinction entre la diffusion d'une information et sa teneur en vérité, du moment qu'elle est amplement partagée. Une logique qui semble même contaminer les milieux intellectuels. Jean-Marie Durand a mené l'enquête pour la revue du Crieur sur le nouveau climat de la controverse savante. S'il est vrai, comme disait Bourdieu, que la vérité, s'il y en a une, est l'enjeu de lutte, celle-ci ne devrait pourtant pas dégénérer en attaque ad hominem, comme le montrent les nombreux exemples cités. Patrick Boucheron, lui-même objet de violentes diatribes pour l'ouvrage qu'il a dirigé sur l'histoire mondiale de la France, a rappelé dans Le mot qui tue, un essai collectif sur l'histoire des violences intellectuelles, que même la tradition humaniste n'était pas à l'abri de l'invective. Pétrarque décrivait l'espace de l'échange intellectuel comme une arène poussiéreuse et bruissante d'injures. L'un des facteurs de tension aujourd'hui est la forte pression sur les postes qui crée entre les chercheurs une situation de concurrence aggravée par l'état déplorable de l'université, précarisée, sous-dotée, dirigée par des bureaucrates devenus des apparatchiks de la recherche, estime Arnaud Saint-Martin, qui dénonce également une forme d'entrepreneurisation de l'université. Le sociologue anime avec Jérôme Lamy la revue Zilzel, dont la dernière livraison propose un grand dossier sur la rencontre manquée entre les Science and Technology Studies et la question de l'intelligence artificielle, avec pour conséquence des cécités partielles lorsqu'il s'agit d'interroger la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Harry Collins, spécialiste de l'approche sociologique des machines intelligentes, explique ce qu'elle peut apporter dans ce domaine. Par ailleurs, Clémentine Gozlan a mené une enquête ethnographique sur l'ARS, l'agence publique chargée d'évaluer la recherche. Elle montre comment les chercheurs se sont impliqués dans la définition des critères de scientificité des revues de sciences humaines, une évaluation sont essentielles pour la carrière de ceux qui contribuent à ces revues. L'agence joue également un rôle dans l'attribution des enveloppes budgétaires de la recherche. La sociologue évoque notamment le débat sur la distinction entre posture scientifique et démarche militante, un débat toujours vif, et notamment dans cette enceinte, sans pour autant virer à l'anathème, comme on peut le voir dans sa version médiatique. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Rwanda.
C'est ça, avec le début dimanche des 100 jours de commémoration, les 100 jours qu'avait duré le génocide de 1994. Un quart de siècle maintenant après les événements, Paul Kagame a voulu saluer une nation, je cite, plus unie que jamais, mais sur le plan diplomatique, la normalisation prendra sans doute du temps. C'est ce qu'avait dit l'année dernière Emmanuel Macron, sans remarquer de la cérémonie. Alors le renouement, à quel rythme et à quelles conditions? On voit ça avec vous. Antoine Glaser, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes journaliste indépendant, ancien directeur de la Lettre du Continent et auteur de plusieurs livres sur la relation franco-africaine. Le dernier avec Thomas Hofnou, Nos chers espions en Afrique. Alors, on s'attarde juste une seconde sur la liste des invités. C'est intéressant, ils étaient une trentaine de représentants attendus. Huit au moins sont des chefs d'État ou de gouvernement, mais liste assez éclectique. Hein. Omar Guelle à Djibouti, Idriss Déby au Tchad, Issoufou au Niger. Et puis surtout, un seul chef d'État européen, Charles Michel, et aucun chef d'État des pays de la région des Grands Lacs. Ça veut dire que le Rwanda se trouve un peu isolé pour ces cérémonies, non?
Oui, absolument. C'est vrai que Paul Kagame, finalement, est un peu craint, on peut dire, de ses voisins. C'est vrai que des grands pays comme en particulier Angola et surtout l'Ouganda du président Yoweri Museveni, qui est quand même l'ancien mentor de Paul Kagame, puisque c'est à partir de l'Ouganda que Paul Kagame est intervenu, est revenu dans son pays à Kigali avec le Front Patriotique Rwandais, le FPR. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des problèmes dans cette région, et Paul Kagame, en fait, c'est vraiment devenu en même temps l'homme fort de la région, et en même temps il est craint par ses voisins. Donc c'est pas un très bon signe au niveau de l'intégration régionale, pour faire un euphémisme.
Oui, avec ce différend qui perdure avec l'Ouganda, toujours accusé de soutenir des groupes armés qui agissent au Rwanda. Alors, pour ce qui est des Européens, je le disais, Charles Michel, donc le Premier ministre belge, était présent. Il a encore une fois, un peu dans la ligne ouverte par Guy Verhofstadt en 2000, présenté des excuses pour, je cite, un cortège d'incompétences, d'erreurs, de fautes qui ont rendu cette tragédie. Est-ce que ça contraste vraiment avec l'absence d'Emmanuel Macron, sachant que les reproches ne sont pas de même nature, évidemment, sur le rôle des deux pays?
Absolument. Ça veut dire, c'est certain que ça reste le génocide du Rwanda. Bien évidemment, ce ne sont pas des Français qui étaient impliqués, bien sûr, dans les massacres. C'est d'abord une affaire rwandaise, mais ça reste aussi une affaire franco-française, compte tenu du soutien à un régime génocidaire quand même de 1990 à 1994, donc c'était pas une petite opération. C'est vrai qu'il y avait une sorte de prétention, une sorte d'arrogance française à intervenir dans un pays et dans une région que même les services secrets français de l'époque, la DGSE, considéraient qu'elle connaissait mal. Et donc il y a vraiment une sorte, bon, ce qui a été dit déjà, d'aveuglement, de cécité, dans une région d'une méconnaissance. Ça veut dire la France est toujours crue chez elle en Afrique, mais en l'occurrence, connaissait très mal le Rwanda. Et il y a vraiment, au niveau, c'est vraiment devenu une affaire franco-française. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, je crois, d'une façon très sincère, il a fait des gestes très importants, ne serait-ce que de soutenir la nomination de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, de la soutenir pour qu'elle devienne la patronne de la francophonie, ce qui était un peu fort de café, puisque le Rwanda était redevenu totalement anglophone, et cette même ministre prônait plutôt l'anglais que le français dans les écoles. Donc il y a eu des gestes de Macron, mais on voit que un Macron affaibli en politique intérieure en France, n'a pas voulu finalement affronter des problèmes en plus. Il y a eu aussi des relations difficiles avec la hiérarchie militaire à Paris, et n'a pas voulu affronter en allant là-bas ouvrir un nouveau dossier au moment où il y a vraiment des problèmes intérieurs en France. Donc je pense qu'il y avait une vraie volonté peut-être de se rendre à Kigali. Il aurait eu du mal à faire ce qu'il a fait en Algérie quand il a expliqué que le colonialisme était un crime contre l'humanité, et c'était très difficile pour lui d'aller à Kigali sans présenter ses excuses, les excuses de la France au peuple rwandais, compte tenu du fait qu'en 2010, déjà Nicolas Sarkozy était allé là-bas en présentant, en disant il y a eu des erreurs d'appréciation, il y a eu un aveuglement. Et donc bref, c'était, à mon avis, on est beaucoup plus dans une affaire franco-française que franco-rwandaise, parce qu'au niveau des relations entre les deux pays, on sent qu'il y a des choses qui avancent.
Donc la visite à journée d'Emmanuel Macron et disons sa représentation par le député Berville, c'est pas selon vous un coup d'arrêt ou un recul de cet élan qui avait été donné l'année dernière? C'est vrai que même Paul Kagame avait parlé d'un nouveau départ au moment où Louise Mushikiwabo avait été nommée à la tête de la francophonie. Pas de coup d'arrêt donc?
Non, je pense pas. Je pense que ça va continuer. Et en plus, vous savez, c'est en ce moment, la tendance d'Emmanuel Macron en politique, comme il explique toujours, il n'y a plus de politique africaine, mais il y a une politique de la France à l'égard de l'Afrique. Pour lui, d'envoyer Hervé Berville, c'est un peu aussi l'écho des savanes. C'est un orphelin rwandais qui a été adopté par une famille bretonne. Et le fait qu'on voit bien qu'en politique de la France vis-à-vis de l'Afrique, il y a beaucoup une montée en puissance un peu de cette diaspora française d'origine africaine. Et donc pour lui, c'est plutôt un geste, en fait, encore une fois, vis-à-vis des diasporas françaises d'origine africaine. Et il veut peut-être penser que c'était le cas, pour lui c'est un geste symbolique, mais c'est pas sûr que pour Paul Kagame le reçoivent de cette façon.
Oui. Et est-ce que s'il y était allé, je vous ai lu le dire dans certains articles, Emmanuel Macron aurait été obligé, disons, de reconnaître une certaine responsabilité française. Est-ce que c'est ça le problème?
Absolument, c'était impossible autrement. Encore une fois, à partir du moment où Nicolas Sarkozy avait déjà été assez loin dans la reconnaissance d'un aveuglement, d'une erreur d'appréciation.
En 2010,
ça veut dire clairement d'avoir soutenu un régime pré-génocidaire. C'était difficile pour Emmanuel Macron. Il aurait, en plus, vous savez, Paul Kagame, faut quand même se rappeler que déjà à plusieurs reprises, il y avait d'autres ministres français qui avaient refusé, qui on leur avait dit de finalement la veille, que ça soit Christiane Taubira, Manoniste Ramayad, la veille avait annulé leur voyage parce que Paul Kagame, il aurait évidemment mis en accusation la France. Il faut quand même rappeler qu'il y a un rapport Mucio d'enquête du Rwanda qui accuse non seulement bien sûr les hiérarchies militaires françaises avec la liste nominative des généraux, mais aussi la liste nominative des politiques français, et en particulier des gens comme Alain Juppé, Édouard Balladur, Hubert Védrine, qui étaient en cohabitation à l'époque en France. Donc il y a une violence aussi du côté du Rwanda de Paul Kagame qui flanque la trouille, à mon avis, à Emmanuel Macron. Et on voit pas tellement Emmanuel Macron en ce moment se fâcher avec quelqu'un comme Alain Juppé qui est vent debout sur la question du Rwanda en disant qu'il n'y a aucune responsabilité française dans cette affaire, que la France a fait le job, que les militaires français ont fait le job alors que personne ne voulait y aller. Donc voyez, on est vraiment plutôt en politique intérieure française.
Hein. Et de ce point de vue-là, justement, politique intérieure, il y a eu cette commission qui a été lancée par l'Élysée avec des archives que l'Élysée va autoriser elle-même, elle va autoriser la déclassification. Comme vous l'avez dit, sans présence, pas d'excuses. Sans excuses non plus, on pourrait dire pas de normalisation. Est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement qui est bloqué d'une certaine manière jusque-là, et au moins pendant 2 ans avant ce fameux rapport là, d'État?
Franchement, le rapport d'État, ça fait quand même 25 ans. Vous savez, vous avez beaucoup de journalistes, des chercheurs. Vous avez quand même énormément de documents qui sont sortis. Il y a des journalistes qui ont fait un travail absolument incroyable. David Servenet, Laurent Larcher, là, qui a sorti récemment un bouquin sur il parle sur le Rwanda où il a revu l'ensemble des acteurs de cette époque. Très honnêtement, je vois pas ce qu'on va trouver. En plus, ce sont des historiens qui sont pas des spécialistes de l'Afrique, encore moins du Rwanda, puisque ces chercheurs ont été, ces historiens plutôt écartés, je vois pas ce qu'on peut trouver de nouveau, sinon des petits bouts de phrases de François Mitterrand sur un certain nombre de documents dits confidentiels, mais comme à cette époque, finalement, c'était assez éclaté, et tout se faisait très souvent des choses secrètes dans l'oralité, je vois pas vraiment ce qu'on va trouver de nouveau. On sait globalement tout ce qui s'est passé.
Et de ce point de vue-là, c'est pas très bon signe, dites-vous, pour la vérité, finalement, cette commission ?
Non, c'est pas très bon signe pour la vérité, parce qu'il faudrait remettre à plat, et très honnêtement, quand vous voyez, enfin moi j'ai fait, dans un dernier bouquin justement, j'ai revisité tous les dossiers du secret défense, du confidentiel défense, il n'y a pas un seul dossier, même quand c'est déclassifié, ils ressortent, on dit caviardé, il n'y a pas de trait noir dessus, mais il y a des feuilles blanches. Donc, pour pas mettre en péril un certain nombre dans les relations de la France avec l'extérieur, très souvent, les choses importantes sont vraiment expurgées. Je ne crois pas qu'on va trouver des choses extraordinaires.
Bon, bah écoutez, à suivre, en tout cas, lors de la prochaine rencontre entre Emmanuel Macron et Paul Kagame, puisqu'ils se sont vus déjà 3 ou 4 fois quand même s'il n'y a pas eu de visite officielle. Et merci ce matin pour vos explications, Antoine Glaser, journaliste indépendant. On renverra à tous vos ouvrages sur le site de l'émission, notamment le dernier, Nos chers espions en Afrique.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Ray and Liz, un film de Richard Billingham, banlieue de Birmingham dans les années 80. Ray, Liz et leurs 3 enfants se débrouillent dans une existence déterminée par des facteurs qu'ils ne maîtrisent pas. Le photographe et cinéaste Richard Billingham retrace en 3 époques différentes le quotidien tumultueux de sa famille. Un portrait à la fois tendre et mordant sur fond de banlieue anglaise des années Thatcher. Ray and Liz, mercredi 10 avril au cinéma. Un film France Culture.
La grande table sur France Culture à l'heure européenne. Olivia Gesbert.
Culture commune, récit européen, grand marché ou citoyenneté. Et si l'Europe disparaissait? Et si on pouvait la réinventer? Régis Debré, Roger Scruton, Elisabeth Roudinesco, Anne-Thérèse de Kersmaeker, Javier Cercas ou Christophe Warlikowski. Ils sont italiens, britanniques, belges, polonais ou encore français. 10 grandes voix de la culture et des idées, souvent critiques, partageront avec vous toute cette semaine leurs sentiments européens.
La grande table, semaine spéciale Europe, dans le cadre de l'opération Radio France, hashtag votre Europe, de lundi à vendredi à midi, à retrouver sur franceculture.fr, en partenariat avec La Croix.
Et à 6h57 sur France Culture, voici l'heure des matins avec vous, Guillaume Erner, qui sourit.
Mais oui, Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Vous souriez parce que je vous sens ironique, voici encore une peinture qui incite au racisme.
Selon des militants auto-proclamés de l'antiracisme, alors ici il s'agit d'une fresque d'Hervé Di Rosa, présentée à l'Assemblée Nationale, accusée de banaliser le racisme, de refléter une esthétique, je cite, située entre Tintin au Congo et Banania, selon ses détracteurs, alors qu'il s'agit d'une fresque destinée à commémorer l'abolition de l'esclavage. Les Noirs y sont représentés avec le style habituel de Di Rosa, avec de grosses lèvres, lesquelles sont aussi utilisées chez lui, précisons-le, avec les Blancs. Des accusations absurdes donc, où il est encore une fois question de soupçonner l'existence d'un racisme inconscient, des accusations qui abîment le combat antiraciste véritable. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit bien que ce type d'affaire est en train de se multiplier et il n'est donc pas inutile de tenter de comprendre pourquoi. Un philosophe, Justin Smith, donne une tribune dans le New York Times qui éclaire les raisons de cette prolifération d'accusations absurdes de racisme. Ce que dit ce philosophe, en substance, c'est qu'une forme de satire est devenue incompréhensible et de situer l'un des jalons dramatiques de cette incompréhension en 2015 avec l'attentat contre Charlie Hebdo. Pour Smith, la satire n'est plus possible à l'heure des réseaux sociaux. La satire fonctionne souvent, dit-il, en empruntant le regard de l'autre, parfois le regard de l'autre raciste, en utilisant des propos rapportés. Quand on dit d'une satire qu'elle va trop loin, ajoute ce philosophe, c'est que le satiriste fait seulement son métier. C'est un problème classique, vieux comme un texte de Montesquieu sur l'esclavage, un texte où Montesquieu résume les arguments des défenseurs de l'esclavage. Il le fait d'ailleurs si bien qu'on a parfois pu classer ce texte parmi les défenseurs de la traite des Noirs, alors qu'il les présente en réalité pour les ridiculiser. En fait, ce qui est en train de se perdre, c'est le sens de l'ironie, la capacité de décrypter l'ironie. L'ironie qui consiste bien souvent à résumer certains propos pour mieux les ridiculiser avec une frontière qui sépare la satire, la caricature et l'objet de la satire ou de la caricature. la satire, en l'occurrence le racisme, avec une frontière qui est de plus en plus difficile à distinguer pour les yeux de nos contemporains. L'habitude des réseaux sociaux nous coupe paradoxalement du contexte social. C'est cela le paradoxe. Nous étions finalement plus connectés avant la connexion.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et dans quelques instants, on reviendra sur le grand débat et sur ses absents, la culture par exemple. Aux environs de 8h20, nous serons en compagnie avec de l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.